Bonjour et bienvenue sur Radio Pulse. Vous êtes avec Anna, Audrey et notre invité Monsieur Charles, enseignant syndicaliste, je tiens à le préciser. Et nous allons aborder le plus grand sujet d'actualité en ce moment, donc en France, la réforme de la retraite. Bonjour Monsieur Charles.
Bonjour.
Alors, nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion avec les syndicats qui avait été suivie d'une manifestation dans les rues de la ville d'Alençon. Et ma première question sera, par qui et par quelle initiative cette réunion, la manifestation a eu lieu ?
Alors ce jour-là, donc, c'était le 5 décembre, première grande journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Macron. Donc au niveau national, hein, de nombreuses organisations syndicales, solidaires, CGT, FO, CFE-CGC, FSU et des organisations de jeunes, lycéens et étudiants appelés à cette journée de manifestation. Localement, c'était donc à l'initiative, puisque toutes les organisations n'étaient pas représentées, de la CGT, de la FSU, de FO et des deux solidaires. Donc, qui avait décidé et de faire une manifestation et en amont de la manifestation de faire une, ce qu'on appelle une assemblée générale pour pouvoir écouter et entendre ce que les gens avaient à dire.
Comment vous êtes pris pour faire un appel aux citoyens, aux habitants d'Alençon ? Alors, les réseaux sociaux, par quels moyens ?
Oui, alors en fait, on a nos moyens de communication, on va dire habituels. On fait des communiqués de presse qu'on envoie donc à la presse. Et puis, on a aussi nos journaux, nos publications, nos sites, certaines organisations syndicales, on Facebook, Twitter, etc.
Et quelle partie de la population a plus répondu ? Donc, c'est plus les personnes âgées, les retraités ? Quelle tranche d'âge ?
Alors,
on n'a pas vu beaucoup d'étudiants quand même, en sachant que ça nous concerne.
Voilà, c'est-à-dire que effectivement, c'est une des spécificités de l'Orne. Les organisations de jeunes, lycéens ou étudiants, sont peu organisées. Pour pas les nommer, hein, celles qui appelaient la FIDEL, l'UNEL, par exemple, l'UNEF, ne sont pas constituées dans l'Orne. Donc, ce qui complique un petit peu les choses, puisque pour parler aux jeunes, c'est normal que ce soit des jeunes qui leur parlent et qui leur expliquent la situation, hein, c'est plus simple. Et dans l'Orne, on voit très peu de jeunes, effectivement. Donc, qui c'est qu'on voit dans ces manifestations ? Eh bien, ça dépend. Je dirais que ça dépend, puisqu'on s'aperçoit qu'en fonction des jours, en fonction des heures, on peut avoir des retraités, on peut avoir des salariés du public, des salariés du privé. On a vu que le 5 décembre, par exemple, c'était, puisque c'était le jour où nous étions rencontrés, énormément d'enseignants étaient mobilisés. Il y en a eu moins par la suite. Et puis d'autres secteurs qui étaient plus mobilisés sur certaines journées. C'est assez variable. La seule chose que l'on peut constater, c'est que la mobilisation reste très forte. Il ne faut pas oublier qu'Alençon, c'est une petite ville moyenne, très peu de monde, et que lorsque l'on a, par exemple, 1000 manifestants à Alençon, si l'on veut comparer avec la couronne cannaise qui a 12 ou 13 fois plus d'habitants, ça veut dire 12 ou 13 000. Donc, on entend souvent les gens dire « Ah, 800, c'est peu. 800, c'est 10 000 sur Caen. » Donc, ce n'est pas peu.
Et donc, revenons sur les étudiants, parce que j'ai peut-être une excuse, justement, pour laquelle, qui les excuse de cette absence. Les lycées, en fait, leur interdisent, enfin, leur interdisent pas. Ça compte comme une absence injustifiée tant qu'ils ne sont pas salariés.
Alors, de tout temps, les lycéens, à l'appel des organisations lycéennes, ont pu faire des manifestations sans pour autant être sanctionnés. C'est-à-dire, tout dépend de ce que la direction d'établissement, souvent sous des directives rectorales, donc du ministère, donc du gouvernement, décide de faire. Lorsque l'on estime que l'on est dans un débat démocratique et que des lycéens se sentent concernés par un sujet et vont manifester, les responsables de ces lycéens ont deux possibilités. Soit ils estiment qu'ils sont dans leurs droits, qu'ils sont des futurs citoyens, qu'ils sont concernés, et dans ce cas, on les laisse manifester sans réprimande, sans représailles. Soit on a envie de faire taire la contestation, parce qu'il faut comprendre une chose, les jeunes font peur au gouvernement lorsqu'ils manifestent, et aux différents gouvernements de tout temps. Les jeunes ont toujours fait peur, premièrement parce que ils ont un côté sympathique. Il ne faut faut pas l'oublier. La jeunesse, même si parfois il y en a qui critiquent la jeunesse, est très bien vue, et la population d'une manière générale voit d'un très bon œil une jeunesse qui prend ses responsabilités, qui devient citoyen, qui affirme vouloir entrer dans les débats de société. Et donc, il y a ce côté sympathie qui, du coup, peut apporter plus de sympathie à une contestation sociale. Et puis, quand on est jeune, on est parfois un peu plus dans la propension à faire des choses qui sont dangereuses. Mmh. Et c'est un fait, hein, c'est ni un jugement ni une critique. C'est-à-dire que souvent, dans les manifestations de jeunes, il peut y avoir un peu plus de débordement. C'est plus difficile à contrôler parce qu'on est avec les copains, parce qu'on se laisse emporter. Et ça fait peur parce que pour les forces de l'ordre, c'est plus difficile à contrôler.
Après, c'est subjectif, ça reste subjectif.
C'est pas subjectif. Pour m'occuper de manifestations depuis maintenant, on peut dire, quelques décennies, c'est un constat. Et j'étais moi-même jeune. J'ai fait, quand j'étais lycéen, les manifestations contre la loi Devaquet, puis à l'université. Et c'est un constat. Moi-même, j'ai mûri dans mes pratiques de manifestation.
Alors là, maintenant, je pense qu'on va faire un petit rappel à la loi. Donc, que dit la loi par rapport au système de la retraite actuellement?
Alors, en fait, nous passons d'un système actuel qui est un système juste et solidaire, c'est-à-dire que chacun cotise et chacun a le droit pour, lorsqu'il arrive à un certain âge. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, ça semble normal de dire qu'on va repousser l'âge de départ à la retraite. On l'a déjà repoussé un certain nombre de fois. Donc, le principe était que lorsque notre corps est usé, lorsque ça fait des années qu'on a travaillé pour la France, on a le droit à une fin de vie décente avec un revenu minimum. On appelle ça donc la retraite par répartition. Le gouvernement actuellement a décidé de mettre en place donc un système que nous on juge nettement plus injuste et plus inégalitaire, un système de retraite par points.
Donc avec trois paramètres qui contiennent.
Alors en fait, les paramètres qui vont être à chaque euro cotisé, donc c'est ce qu'ils avancent comme argument. Là, on verra tout à l'heure, hein, pourquoi nous, on trouve que ce n'est pas obligatoirement un avantage. Leur premier paramètre, c'est dès qu'on cotise, donc notamment les jeunes, des petits boulots d'étudiants, etc., bien souvent, on avait l'impression de ne pas cotiser pour notre retraite plus tard, puisqu'on prenait les 25 meilleures années dans le privé, les 6 derniers mois dans le public. Donc, que cela n'apportait pas, ce qui était totalement faux, puisque c'était des trimestres validés. Donc, aujourd'hui, le gouvernement dit, les jeunes travaillaient, ça ne leur apportait rien. Alors c'est vrai que pour pouvoir valider un trimestre, il fallait un seuil minimum de salaire. Et que si on touchait en dessous de ce seuil, on n'avait pas de trimestre cotisé.
Il va combien ce seuil ?
Je ne l'ai pas spécifiquement en tête, mais ce n'est pas très élevé, hein, c'est par rapport au SMIC. À titre d'exemple, moi j'ai travaillé dès mes 17 ans pour payer mes études, je travaillais l'été, et il m'arrivait qu'en un mois, j'avais eu mes 4 trimestres. En un mois de salaire, donc à temps complet, avec des heures de nuit, etc. Donc vous voyez qu'on pouvait en un mois parfois valider 4 trimestres. Donc moi, dans mon cas, tous les petits boulots que j'ai exercés en étant étudiant, puis ensuite sur ce qu'on appelait pion, hein, surveillant de lycée et tout, j'ai validé tous mes trimestres depuis mes 17 ans. Donc ça avait cet avantage-là quand même. Non, aujourd'hui, voilà, le principe du gouvernement, c'est de dire si vous êtes sous seuil, vous n'auriez rien cotisé. Dans les faits, la personne qui va toucher peut-être 350 euros aujourd'hui pour un travail d'une quelques jours ou l'été, va se dire j'ai cotisé. Sauf qu'au lieu de compter les 25 meilleures années, on va lui compter toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il aura très peu cotisé. Alors qu'avant, s'il avait validé des trimestres, on estimait en fin de carrière, puisqu'on prenait ses 25 meilleures années, que sur les trimestres qu'il avait validés, il avait touché la moyenne de revenus des 25 dernières années. On peut l'espérer quand même, un revenu nettement plus confortable.
Donc vous ne voyez aucun avantage au nouveau projet de la loi ?
Ah non, 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 nous ne voyons quasiment que des désavantages.
Et que dit le gouvernement ?
Alors le gouvernement dit que, c'est son argument, qu'il va y avoir de la justice.
Au niveau de quoi ? Pour qui ?
Alors, le principe, c'était dans le programme d'Emmanuel Macron, qui disait « Un euro cotisé doit donner lieu au même droit, quel que soit le moment où il a été versé, et quel que soit le statut de celui donc, qui a cotisé. » Déjà, c'est faux. Avec sa réforme, ça ne sera pas le cas. C'est-à-dire, sous prétexte de dire on cotise un euro, on a les mêmes droits, c'est totalement faux. Pourquoi ? Parce que, on le voit avec le projet de loi qui est sorti, aujourd'hui, si vous travaillez et que vous récoltez un point pour votre retraite, pouvez-vous dire quelle sera la valeur de ce point quand vous partirez à la retraite ?
Ah ben non, pas du tout.
Non. Et pourquoi ? Parce que la loi prévoit que la valeur de ce point puisse varier. Donc, si vous et moi, qui avons un certain nombre d'années de différence, on cotise aujourd'hui 1 euro, quand moi je vais partir, ce 1 euro va me rapporter, alors pour l'instant, le rapport de Levoix disait 0,55 euros par point.
Alors, on en est toujours à là ?
Non, on n'en est plus là, non, puisque ce n'est même plus marqué dans le projet de loi.
D'accord.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait rien du tout là-dessus. Donc, il disait 0,55 euros, mais il disait aussi que ça pouvait varier, par exemple, 10 ans plus tard, ne valoir que 0,45 centimes d'euros.
Donc, c'est un projet non stable, en fait.
Donc, ce qui veut dire que vous et moi, en cotisant aujourd'hui 1 euro, nous n'aurions pas les mêmes droits, puisque moi, j'aurais eu 0,10 centimes d'euros pour ce point, de plus que vous. Donc, vous voyez bien que déjà, le premier élément qu'avançait le gouvernement est totalement faux.
Et eux, ils trouvent ça logique ?
Oui, puisque, en fait...
Ce qu'elle a, c'est la loi du plus riche. La personne qui n'a pas travaillé et qui n'a pas pu cotiser pour la retraite, comment va-t-elle faire ?
C'est exactement ça. Alors, monsieur...
Qu'est-ce qu'il prévoit pour ces personnes-là,
monsieur Macron a promis une retraite à 1 000 euros. Donc tout le monde l'a entendu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand M. Macron dit que tout le monde aura 1 000 euros, il oublie de préciser la fin de sa phrase. Pour tous ceux qui auront eu une carrière complète et qui ont recotisé jusqu'à l'âge pivot, qui partiront à l'âge pivot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, parler d'un âge pivot à 64 ans, qu'ils ont retiré, mais qui, on verra, va bientôt revenir. Hein.
Ah oui, de toute façon, c'était Édouard Philippe qui l'avait retiré pendant un moment, qui avait laissé le choix.
Pour l'instant, il laisse le choix aux partenaires sociaux de s'entendre sur les moyens de financement.
Oui, mais ne pas toucher les cotisations sociales et ne pas toucher à l'âge pivot.
Voilà. Donc,
qu'est-ce qu'il leur reste à faire ? C'est pas logique.
Mais le cadre est tellement contraint que, de toute façon, l'âge pivot va revenir avec l'effet boomerang. On va en réentendre parler, c'est certain. Donc maintenant, pour revenir sur ces 1 000 euros, ça veut dire que quand on a le nombre de trimestres qui augmente, donc 40, il faut 43 annuités pour certaines générations, les générations les plus jeunes, il faudra actuellement 43 ans de cotisation, et partir à 64 ans pour pouvoir ne pas avoir de décote. C'est-à-dire que pour pouvoir toucher vos 1 000 euros, il faudra avoir effectivement travaillé pendant 43 ans et ne pas partir avant 64 ans. Mais si vous avez des carrières hachées, si vous avez, par exemple, vous êtes une jeune femme, on peut espérer pour vous que vous ayez des enfants, que vous choisissiez de prendre du temps pour les élever, de toute façon d'avoir peut-être des temps partiels, tout cela, ça va venir en déduction.
C'est-à-dire qu'à un moment... Il n'y a rien qui subventionne le fait.
Non, c'est-à-dire qu'on en reviendra sur le droit des enfants ou les droits des femmes. Il y a quelques petites choses, mais qui ne compensent pas ce qui était fait actuellement. C'est-à-dire que, cela, on y reviendra, les femmes, contrairement à ce que dit ce gouvernement, seront les grandes perdantes de la réforme. Donc, pour avoir ces 1 000 euros, on y revient, il faut ne pas avoir eu de période de chômage, d'accident de la vie, vous avez un accident de voiture, vous êtes 3 ans à ne pas pouvoir travailler, etc. etc. Ce qui va vous hacher, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de carrière hachée, ni même avoir par choix décidé d'élever ses enfants, d'avoir eu des enfants, de prendre des congés maternité, des temps partiels, etc. Parce que vous serez pénalisé. Donc ces 1 000 euros, ce n'est pas pour tout le monde.
Qu'est-ce que ça apporte à l'État de changer cette loi-là ?
Alors c'est très simple. Ce que ça apporte à l'État, c'est que aujourd'hui...
Parce que si nous ne sommes pas gagnants, il y a forcément un gagnant,
oui.
Donc ça sera le gouvernement.
Alors c'est pas le gouvernement lui-même, ce sont ses amis, ceux qui les ont fait élire. C'est-à-dire les financiers. Dans le projet de loi, il est dit que tout le monde va cotiser jusqu'à 10 000 euros bruts par mois.
Mmh.
C'est-à-dire que quand vous avez un salaire qui va être supérieur à 10 000 euros bruts par mois, vous n'aurez plus de cotisations qui vont venir abonder la masse, on va dire générale, qui jusqu'à aujourd'hui permettait justement de financer ceux qui avaient moins cotisé aussi. C'est-à-dire, donc, vous avez, il faut savoir que actuellement, quand moi je cotise, j'ai en gros 25,5% de mes cotisations qui viennent pour ma retraite, et puis j'ai 2,5% qui vont dans une caisse de solidarité, des retraites, etc. Donc quand vous avez les plus hauts salaires qui cotisent, donc vous avez quelqu'un qui touche par exemple, on va dire 50 000 euros bruts par mois, et oui ça existe, Donc voilà, vous voyez que la différence avec le projet de loi, c'est qu'actuellement, ils cotisaient 50 000 euros à hauteur de 28%, et que parmi ceux-là, il y en avait 3% qui allaient dans la caisse de solidarité, ce qui fait des sommes importantes. Dorénavant, ça ne sera plus le cas. Au-dessus de 10 000 euros, il ne cotisera plus. Qu'est-ce qui va se passer? Il faut savoir que dans les cotisations, quand on parle de 28%, il y a à peu près 60% qui sont des cotisations versées par les patrons et 40% par le salarié. Quels sont les deux grands gagnants? Le patron, pour ce gros salaire, qui ne va plus verser au-dessus de 10 000 euros brut par mois, donc qui va faire un gain, puisqu'il ne versera plus ces cotisations-là. Et le salarié, qui, lui, ne versera plus ses 40% des 28%, hein, et donc aura un gain assez important de salaire par mois en plus. Donc il avait déjà un salaire très correct, hein, si on est à 50 000 euros. Je les prends demain si on me les donne. Et donc, il aura de l'argent en plus. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il va se dire, effectivement, sa retraite, elle ne va être comptabilisée que sur les 2 000 euros sur lesquels il cotise. Que sur ces 10 000 euros-là. Mais avec l'argent qu'il gagne en plus, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ce que pousse à faire le gouvernement. C'est aller vers la retraite par capitalisation, aller vers les fonds de pension, et donc amener des milliards d'euros dans ces fonds de pension. Qui c'est qui gère ces fonds de pension? Les grands groupes financiers. Voilà. Donc voilà, BlackRock par exemple, on y vient.
Donc, le chemin est très clair.
Voilà, donc c'est plein de mécanismes complexes comme ça qui font que la politique de ce gouvernement, elle est simple. C'est effectivement comment servir les grands groupes financiers, comment servir les plus riches et aux dépens des plus pauvres. Puisque parallèlement, cette réforme des retraites, ben nous le voyons, il va falloir travailler plus longtemps. Puisque si vous ne voulez pas de décote, il faudra travailler jusqu'à 64 ans. Il aura le droit de partir. Il nous l'a dit, hein, je ne change rien, il a le droit de partir à 62 ans, mais avec des cotes. C'est-à-dire que quelqu'un qui partira à 60%, s'il devait avoir 1500 euros de retraite, comme il prendra 10% de malus, il n'aura plus que 1350 euros. Il va perdre 150 euros à partir à 62 ans. S'il ne veut pas perdre ses 150 euros, il faudra qu'il parte à 64 ans. Donc, les retraites les plus basses vont prendre un impact quand on est usé et qu'on a besoin de partir. Voilà, c'est énorme, 150 euros pour quelqu'un qui devait partir avec 1500. Et encore 1500 euros, c'est pas tout le monde. Hein.
Ouais.
Donc, c'est une perte énorme. Donc, deux possibilités. Soit je décide de travailler jusqu'à 64 ans, parfois pour certains jusqu'à 67. Hein, c'est très complexe. Lorsqu'il manque des trimestres et tout, c'est. Voilà. Et donc, elle va nous pousser à travailler beaucoup plus longtemps. Et comme parallèlement, tout le monde ne pourra pas travailler, ben ils en profiteront, mais avec un gros malus. Il ne faut pas oublier aussi que dans le privé, par exemple, c'est très dur de trouver du travail après 55 ans. Donc, on savait déjà que c'était dur d'aller jusqu'à 60, 62 ans parce que beaucoup ne trouvaient pas de travail. Là, il faudra aller encore plus loin. Donc, ils prendront encore plus, ils paieront doublement, puisqu'ils pourront, s'ils arrêtent avant, prendre du malus, la décote. Mais en plus, ils auront mal cotisé. Puisqu'on n'est plus sur les 25 dernières années, leurs années où ils cotiseront peu seront prises en compte. Donc, qu'est-ce qui va se passer obligatoirement avec cette réforme? On aura une baisse générale des pensions. Un grand nombre de personnes auront une retraite nettement plus basse. Et il faudra travailler plus longtemps. Alors moi, j'ai un terme pour ça. Les études montrent que plus on travaille longtemps, moins on vit longtemps. Les études montrent que plus on est pauvre, moins on vit longtemps. Donc cette réforme, elle assassine. Elle assassine parce qu'elle va pousser les générations qui viennent à mourir plus jeunes, puisqu'ils travailleront plus longtemps, qu'ils seront plus pauvres, et ce sont des indicateurs de mortalité.
Donc au final, est-ce que ces manifestations, ça emmènera à quelque chose?
En fait, ce n'est pas très compliqué. Un gouvernement, surtout un gouvernement comme actuellement, hein, où on voit que la discussion, contrairement à ce qu'ils disent, le dialogue social, on n'a jamais vu autant de personnes arrêtées pour des motifs très très intrigants après des manifestations. On n'a jamais vu, nous, dans la fonction publique, autant de convocations assez étonnantes, autant d'intimidations. Il faut rappeler que, par exemple, nous, dans l'éducation nationale, M. Blanquer a innové. Avant le 5 décembre, il a utilisé les moyens de communication du ministère à l'ensemble des enseignants qui d'habitude servent à nous envoyer le bulletin officiel, etc., pour essayer de nous convaincre que la réforme était bonne et qu'il ne fallait pas manifester. Donc on voit bien que ce gouvernement est assez compliqué dans sa pratique de la démocratie. M. Macron s'est énervé il n'y a pas longtemps, hein, auprès de journalistes, en disant qu'il ne fallait pas parler de dictature, qu'il faudrait que les journalistes aillent voir ce que c'était qu'une vraie dictature. Donc tout au moins, ça veut dire que c'est interroge aussi des journalistes. Et donc, dans cette pratique, il reste arc-bouté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'est pas capable d'entendre que la très grande majorité de la population est contre cette réforme de retraite et en veut le retrait. Il nie l'ampleur des manifestations. Parce que c'est historique. Jamais dans l'histoire, il y a eu autant de jours de grève. Il oublie que si on fait le cumul du nombre de manifestants sur toutes ces journées, c'est historique également. Donc ça, il ne l'entend pas. La seule chose qu'il a fait, c'est essayer de diviser. Essayer de diviser, puisqu'il avait une réforme qui devait faire que tout le monde va être logé à la même enseigne, sauf que dès le mois de décembre, il a lâché pour certaines professions. Il ne faut pas l'oublier.
Quelles sont-elles ?
Il en a lâché. Alors pour l'Opéra de Paris, etc. C'est plusieurs corps de métier pour les militaires. Il en a lâché pour plusieurs professions. Il a lâché aussi. Il a essayé d'éviter la solidarité puisque il a lâché en reculant l'âge de mise en œuvre de la réforme et en espérant que entre guillemets les plus âgés arrête de manifester, puisqu'il a annoncé que ne seraient concernés réellement que ceux, donc avec une partie intermédiaire, pour ceux qui sont nés après 1975.
Donc les retraités, à ce jour, ne sont pas concernés.
Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, moi-même, qui suis né en 1971, je pourrais ne pas me sentir concerné. Alors, c'est vrai et c'est faux, puisque l'âge pivot interviendrait, je me serais quand même concerné, puisque au lieu de pouvoir partir à 62 ans avec une retraite complète, c'est 64 ans. Mais le mode de calcul resterait le même. Et puis, il y a la génération 2004 qui, elle, sera complètement concernée par ce système. Donc, vous voyez, c'est comment on essaye de diviser. Donc, on divise certains métiers, puisqu'on essaye de les retirer. On divise les générations. Et puis, bien maintenant, il y a eu d'autres pratiques, telles que... Il semblerait que la valse des préfets qui a été faite la semaine dernière, vous savez que par exemple dans l'Orne on change de préfète, dans énormément de départements, ils aient eu une petite réunion pour leur expliquer qu'ils n'étaient pas assez fermes et qu'il fallait amener le train de la réforme, dernier quai. Donc on va les bouger pour leur expliquer comment ils font fonctionner. Donc on voit bien quand même qu'il a acculé M. Macron. Que le fait que plus de 60% des gens veulent le retrait de la réforme le dérange et peut penser aujourd'hui qu'il y a deux possibilités. Soit il reste arc-bouté jusqu'au bout et il se met en danger électoralement, très fortement.
Ah là, il est bien parti. Hein.
Voilà. Donc, soit à un moment il ouvre la porte, mais pour qu'il ouvre la porte, il faut que nous soyons très nombreux dans la rue. Est-ce que si demain, puisque demain il y a une journée d'action, sur Alençon, je vous rappelle, mercredi donc à 17h, place Foch, le départ de la manifestation, si demain en France il y a 2 ou 3 millions de personnes dans la rue, on peut penser que peut-être à un moment, ses oreilles se déboucheraient et qu'ils diraient, bon, cette réforme de la retraite, j'entends la voix de la démocratie, puisqu'il dit être très attaché à la démocratie. Peut-être qu'il se dira, j'entends la voix de la démocratie et je retire cette réforme.
D'accord, mais 2-3 millions de personnes, il faut déjà les rassembler, il faut déjà qu'ils aient espoir. Les perdants entre les fonctionnaires et les salariés des secteurs privés, c'est quand même les secteurs privés.
Alors, pas du tout, c'est tout le monde. C'est là où il faut faire attention, c'est que c'est tout le monde. On va prendre un exemple tout simple. Qu'un élève de seconde pourrait faire. Moi, je vais prendre ma génération. Alors certes, on va parler de sommes qui n'ont rien à voir avec quelqu'un qui est au SMIC.
Oui, mais il y a quand même une perte de salaire dans les deux cas.
C'est ça. Donc, on va prendre le cas d'un professeur des écoles qui a commencé comme moi et donc qui a commencé à 1 250 €. Donc, nous sommes à Bac+5 et qui a une fin de carrière à 2 850 € s'il a un avancement classique. Le gouvernement, M. Blanquer lui-même l'a dit dans différentes émissions, disait les enseignants sont mal payés en France parce qu'on est, 25e sur 27 en Europe. On est la France, grand pays dans le monde, paye très mal ses enseignants par rapport au reste de l'Europe.
C'est vrai que pendant un moment, ce sujet-là, il a fait polémique quand même.
Oui, donc nous sommes parmi les plus mal payés d'Europe. Et pour compenser, l'avancement de carrière faisait qu'on terminait à un salaire honorable, quand même, 2 850 € pour ceux qui ont commencé en même temps que moi. Et le gouvernement disait, comme vous êtes mal payé en début, en milieu de carrière, on ne comptera que vos 6 derniers mois. Donc vous ne serez pas pénalisé sur votre retraite. C'était ça l'engagement. En fait, quand on parle de régimes spéciaux et donc de personnes qui ont des avantages, c'est-à-dire que, en fait, ce n'est pas un avantage que l'on a gagné, c'est le gouvernement qui nous a tendu ça pour dire on ne peut pas vous payer plus en début alors que vous êtes à Bac plus 5, on ne peut pas vous payer comme dans le reste de l'Europe, donc en compensation, on ne vous pénalisera pas sur vos retraites. Donc ce qui veut dire que notre pension était calculée sur les 2850 euros des 6 derniers mois. Si jamais on compte sur toute notre carrière, ça veut dire qu'on va compter sur nos 1250 euros de début de carrière jusqu'à nos 2850 euros de fin de carrière, une moyenne à peu près de 2050. Alors je parle bien de moyenne, et en fait il faudrait parler de médiane, mais bon, c'est plus complexe. Et ce serait là le calcul que je vais vous faire est encore plus favorable au gouvernement. Donc sur 2050, ça veut dire que ceux de ma génération, avec ce système là leur pension serait calculée sur une moyenne de revenus de 2050 euros, soit 800 euros de moins par rapport à ce qui existait avant. Monsieur Blanquer l'a reconnu. Il a dit, on va les revaloriser, mais la revalorisation telle qu'il la propose, là, c'est 30 euros par mois. Ça ne va pas compenser. Si jamais il veut qu'on ne perde pas comme il l'assume, comme il le dit, puisqu'il dit, il ne faut pas qu'il perde, ce ne serait pas normal, il faudrait qu'il nous augmente de 800 euros par mois.
Oui, mais d'où sont calculés ces 30 euros?
Ben, en fait, il a dit qu'il débloquait un budget de 400 millions d'euros pour 1 million d'enseignants, 400 euros annuels bruts, vous divisez par 12, et ça vous fait un peu plus de 30 euros brut, donc net, c'est encore un petit peu moins. Donc c'est le budget que lui-même a annoncé. C'est, voilà, donc 400 millions divisé par 1 million d'enseignants, ça fait 400 par personne.
Est-ce que c'est une solution raisonnable ou
non.
30 euros
non,
c'est...
Non, ça n'apporte rien. Et c'est surtout pour montrer que quand il nous dit qu'il va compenser, revaloriser les salaires des enseignants pour éviter qu'ils perdent sur leur retraite, c'est pas possible. Il faudrait qu'ils nous augmentent, moi ceux qui ont commencé en même temps que moi, de 800 euros par mois. C'est ça, c'est la différence de calcul entre les deux. Ce n'est absolument pas envisageable. C'est au niveau du budget de l'État, enfin, ils peuvent, hein, des financements on peut en trouver, hein, très sincèrement. Je peux vous dire à la fin comment on peut financer toutes ces choses-là, pour le privé, pour le public, pour tout le monde. Maintenant, dans le privé, on essaye de leur faire croire, puisque eux aussi vont être fortement perdants, que c'est un avantage cette retraite. Comment on peut croire que lorsque l'on travaille, par exemple, 42 ans, lorsqu'on prend les 25 meilleures années, vous commencez dans le privé, vous êtes jeune, vous avez des petits boulots, vous avez parfois des boulots à temps partiel, parfois de l'intérim, etc.
Quels critères rentrent dans ces 25 meilleures années? Qu'est-ce qu'ils appellent les 25 meilleures années au final?
Sur 42 ans, vous travaillez par exemple votre 7 première année, on va dire à 1000 euros. Et puis les 10 suivantes, vous êtes à 1500 euros. Puis vous êtes 5 ans à ne pas travailler, avoir un problème dans votre vie ou un choix, etc., à ne pas travailler. Et puis vous avez, vous repartez sur, donc on est de là à 22 ans, sur les 20 dernières années à 2000 euros. Les années qui vont compter pour votre retraite sont les 2000 euros des 20 dernières années, plus 5 ans, puisqu'il faut faire 25, à 1500 euros. Dans le système actuel, enfin dans le système que propose M. Macron, c'est toutes vos années qui comptent. Donc obligatoirement, votre base pour la retraite, elle est prise avec une moyenne nettement moins intéressante, puisque vos mauvaises années à 1000 euros ou les années où vous n'avez pas pu travailler, elles comptent. Donc, obligatoirement, vous allez être perdant. Tout le monde va être perdant. C'est bien ça qu'il faut se rendre compte.
Surtout les femmes.
Quasiment tout le monde. Alors, encore plus les femmes. Quasiment tout le monde, sauf effectivement les très très gros salaires, qui eux, on en a parlé tout à l'heure, vont se retrouver gagnants. Alors, il y a quelques gagnants à la marge, puisqu'il y a des prises en compte très spécifiques sur des métiers très particuliers, des difficultés très particulières. Il y a des nouveaux droits qui apparaissent, hein, il faut pas, voilà, sur les aidants, par exemple, de personnes en fin de vie, etc. Donc, ils ont prévu des petites choses comme ça, mais qui sont à la marge et qui vraiment ne vont pas compenser les pertes. Pour les femmes, vous parliez des femmes, c'est un sujet très 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 important, puisque M. Macron disait il faut penser aux femmes. Les femmes, il faut voir que dans le projet de loi, on va diminuer les droits à la réversion. Vous savez, quand vous êtes marié, que votre conjoint décède, vous avez le droit à une réversion de sa pension. Sans rentrer dans les détails, on avait un système qui était déjà injuste pour les femmes, déjà. Hein. Donc effectivement, quand il fait le constat que les femmes étaient pénalisées en partant à la retraite, c'est vrai. Le droit à la réversion, pouvait pour certaines compenser en partie. Il faut savoir qu'il y a 40% actuellement, 40% d'écart de pension entre un homme qui part à la retraite et une femme qui part à la retraite. Avec le droit à la réversion, cet écart était à 24%, donc compenser un petit peu. Là, texte que le présente le projet de loi, ça va pénaliser les femmes sur le droit à réversion parce que il faudra plus être divorcé. Voilà, il y a plein d'autres critères qui apparaissent. La deuxième chose, c'est l'ensemble des carrières. On prend l'ensemble des carrières, puisque maintenant c'est sur l'ensemble de la carrière que M. Macron veut comptabiliser les droits à la retraite, 1 euro chaque mois donne, donc sur les meilleures années. Sauf que, quelle est la situation pour les femmes? Je vous le disais tout à l'heure, une femme souvent dans sa carrière, elle s'est arrêtée de travailler parce qu'elle a eu ses maternités, elle a décidé d'élever ses enfants, parfois parce que quand le conjoint est muté, elle le suit, elle abandonne son travail. Mm-hmm. Donc les carrières hachées, celles qui en ont le plus, enfin les personnes qui en ont le plus, c'est souvent les femmes. Or, en prenant du coup non plus les 25 meilleures années, mais l'ensemble de la carrière, c'est les femmes qu'on pénalise, puisque c'est celles qui ont le plus les carrières hachées. Et puis, vous avez les droits familiaux. Les droits familiaux, notamment pour les enfants, qui sont revus avec ce système de retraite et qui vont être défavorables aux femmes. Donc voilà, sans rentrer trop dans les détails, cette réforme des retraites va être très défavorable aux femmes. On pourrait penser, voilà, c'est de se dire, parce qu'on l'entend bien, il faut faire une réforme des retraites, ça ne va pas, il faut financer. Donc déjà, ça veut dire qu'on part sur autre chose. Monsieur Macron parlait au départ d'une réforme des retraites qui était sur le principe de comment calculer les retraites. Ce n'était absolument pas un problème de financement. Il y a intégré avec M. Philippe le financement en disant il faut équilibrer les comptes, il faut absolument qu'on puisse voir parce que sinon on va avoir des soucis. Ce sont deux choses différentes. En voulant équilibrer, il a instauré son âge pivot. Donc c'est un moyen pour nous dire comment baisser les pensions et comment nous faire travailler plus longtemps. Je vais prendre une autre image sur le financement. Le gouvernement a décidé, donc, dans son projet de loi, d'instaurer que au maximum 13% du produit intérieur brut, du PIB, serait alloué aux pensions. 13%, quel que soit le nombre de retraités. Imaginons un jeune homme, une jeune femme qui fête son anniversaire. Il a un gâteau. Un gâteau, voilà, qui fait, alors, pour prendre l'image des 13%, 1,3 kg. S'il a 5 invités, les parts vont être un petit peu plus grosses que s'il en a 15.
Oui.
Théoriquement, lorsque l'on fait un goûter d'anniversaire, plus on a d'invités, plus on amène de gâteaux. Là, c'est le même gâteau pour tous. C'est-à-dire que l'on est 5 millions de retraités ou 8 millions de retraités, il n'y aura que 13% du PIB à destination des pensions. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les pensions pour que tout le monde puisse rentrer dans ce gâteau.
La loi, c'est pas envisageable.
Ben, nous, c'est pas envisageable. Par contre, c'est ce qui est prévu par la loi. C'est-à-dire qu'obligatoirement, je ne sais pas, là, nous sommes trois. On nous dit, demain, vous avez 1 000 euros à partager en trois. Et puis, l'année prochaine, c'est 1 000 euros à partager en cinq. Puis, l'année suivante, c'est 1 000 euros à partager en sept. Mais obligatoirement, on n'a pas la même chose. Ça sera pareil pour la retraite. Alors, on pourrait se dire, ouais, alors comment on fait? Et ben, nous, on a des propositions. Des propositions, c'est pour pouvoir financer, c'est il faut accroître les ressources qui vont être allouées aux retraites. Comment faire? Première chose, c'est assurer l'égalité homme-femme. Alors, on pourrait dire, ah bon, en quoi ça va changer quelque chose? Si aujourd'hui les femmes étaient payées autant que les hommes, elles toucheraient plus.
Donc
si elles touchent plus, elles cotisent plus. Donc c'est de l'argent en plus. On peut, pourquoi pas, envisager une hausse des cotisations. Après, il faut voir dans quelle part, la part patronale et la part salariale, à quelle hauteur. On peut surtout avoir une politique de l'emploi en France. Aujourd'hui, on a une politique qui va contre l'emploi, malgré ce que veut nous dire le gouvernement. Quand vous avez, on parlait tout à l'heure des fonctionnaires, quand vous avez un gouvernement qui supprime des postes de fonctionnaires, il supprime des emplois, donc il supprime des cotisations. S'il crée des postes de fonctionnaires,
donc il devrait les restaurer.
Il crée des cotisations. D'autant plus que tous les économistes nous disent qu'on est à l'aube d'une crise bien plus importante que 2008. Et le monde entier a reconnu en 2008 que si la France avait si bien amorti cette crise-là, c'était parce qu'elle avait un fort taux d'embauche de fonctionnaires et qui du coup avait continué à travailler, avait continué à consommer auprès du boulanger, etc., et avait continué à faire tourner l'économie. Donc c'est une spirale positive que d'en avoir. Et surtout, ça crée des cotisations. Et puis, il y a une chose dont M. Macron veut absolument éviter de parler. c'est la taxation des revenus financiers et du patrimoine. Nous avons les plus riches, ceux qui peuvent se permettre d'avoir des revenus financiers, d'avoir parfois des patrimoines, on le voit chez nos ministres, assez importants. Ils ne sont pas taxés. Ils ne cotisent pas pour la retraite, ces revenus financiers. Comment peut-on accepter qu'il y ait des millions, des milliards d'euros qui soient gagnés par des gens, par, sur les marchés financiers et tout, sans cotiser? Cela ne cotise pas. On a le fait de supprimer des exonérations et les aides aux grandes entreprises qui alimentent les profits. On a par exemple le CICE qui équivaut à peu près à 40 milliards de dons pour les plus grandes entreprises, qui initialement devait servir à les faire de l'emploi, et on s'est aperçu que dans les faits, elle ne crée pas d'emploi, elle part dans les dividendes des actionnaires. Donc dans ce cas-là, on supprime. Ce n'est pas efficace, on supprime. Il y a le fait de soumettre à cotisation tous les éléments de rémunération. C'est-à-dire que dans nos entreprises, vous avez parfois des salariés qui ont des intéressements, des participations aux résultats de l'entreprise. Et ça, ça ne cotise pas pour les retraites. Donc, dans la fonction publique, donc nous y compris, les primes sont exonérées de cotisation. Quand vous touchez une prime, vous ne cotisez pas pour la retraite. On a les grandes entreprises, donc les revenus financiers des grandes entreprises, je disais tout à l'heure, environ 70 milliards annuels de gains, qui ne cotisent pas. Donc on voit qu'il suffirait d'élargir la part des cotisations, et puis on n'aurait pas besoin de baisser les pensions.
Et moi j'avais juste une question avant de clôturer le débat. Toutes ces solutions, est-ce qu'elles ont été remontées au gouvernement ou pas?
Ah mais bien sûr.
Qu'est-ce qu'ils ont fait?
Mais ils ont balayé d'une main, on le voit, avec leur projet de loi.
Bon, bah Monsieur Chard, je vous remercie de nous accorder du temps.
Je vous remercie de votre invitation et surtout, effectivement...
J'espère que ça a été utile.
Surtout, voilà, pour les jeunes pour lesquels la retraite est bien, bien loin. Mais malheureusement, c'est dès maintenant qu'elle se construit. Et ce sont les principaux concernés, car c'est eux qui vont payer le plus cher.
Il faut continuer à se mobiliser.
Oui.